La tête. La tête. Tête. Oh. Oh.
C'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. Elle est au cœur d'une épidémie mondiale majeure. La maladie d'Alzheimer toucherait actuellement près de 50 millions de personnes sur la planète. Et demain, 21 septembre, c'est sa journée mondiale. Nous lui consacrons aujourd'hui cette tête au carré pour évoquer les pistes les plus intéressantes sur le front du dépistage précoce et des études scientifiques pour éviter la démence. L'émission est en partenariat avec Cerveau et Psycho et la Fondation pour la Recherche Médicale. Et j'attends vos messages pour nos invités dès maintenant. Toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une étude qui va sans doute nous donner envie de moins manger.
Et oui Mathieu, puisque ça permet aux souris de vivre plus longtemps, pourquoi pas nous? On fait le point sur les liens entre longévité et calories avec le biologiste Pierre-Antoine Defossé.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et les nouvelles façons d'espérer autour de la maladie d'Alzheimer, dossier dans quelques minutes avec mes invités que je salue, le professeur Philippe Amouyel et Sébastien Bollaire de Cerveau et Psycho. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Professeur Amouyel, est-ce qu'on arrive vraiment à traiter la maladie de plus en plus tôt aujourd'hui?
On arrive à la repérer de plus en plus tôt. Pour la traiter, il va falloir qu'on trouve de nouveaux médicaments.
Oui, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Hein.
C'est malheureusement toujours pas le cas. On commence à avoir des hypothèses, on connaît mieux la maladie. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir dire, voilà, on a fait une découverte, on a trouvé un traitement. Malheureusement, on travaille sur l'organe le plus compliqué de l'homme.
On verra pourquoi avec vous tout à l'heure. Sébastien Bollaire, vous avez voulu axer votre dossier sur les nouvelles raisons d'espérer. Il y a quand même de l'espoir autour d'Alzheimer aujourd'hui?
Oui, il y a de l'espoir déjà à cause de ce que vient de dire le professeur Mouyel, c'est qu'on comprend mieux les mécanismes de la maladie. On a compris qu'il faut essayer de la détecter le plus tôt possible. Donc, plus on saura la détecter en amont, plus il y aura quand même de l'espoir d'intervenir pour les personnes qui auront été dépistées en amont. Et puis, on a identifié maintenant de façon assez certaine quand même un certain nombre de modes de vie, d'hygiène de vie, qui sont quand même protecteurs.
On y revient dans un instant avec vous. Les messages, bien sûr, vous attendent de la part des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Pourquoi manger moins permettrait vraiment de vivre plus vieux? C'est une question qui titille les chercheurs depuis un moment et qui trouve un début de réponse à la une de la science aujourd'hui.
Ça manque de sangliers et de cervoises ici. Oh. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va.
Voilà, et depuis un moment déjà, les études en laboratoire montrent que des souris qui mangent moins vivent plus longtemps que les autres. Les preuves existent aussi chez le singe. Aujourd'hui, des chercheurs américains proposent une explication à ce mystère. Axel, pour en parler, nous recevons aujourd'hui le biologiste Pierre-Antoine Defossé.
Bonjour à vous, Pierre-Antoine Defossé.
Bonjour.
Vous êtes biologiste moléculaire, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'épigénétique. Alors, ça fait combien de temps que ce lien entre la quantité de nourriture ingérée et la longévité est établi chez le rongeur, en tout cas?
Donc, ce sont des observations qui sont déjà assez anciennes, qui ont presque un siècle. Donc, dans les années 20 et les années 30, on savait déjà que des souris qui mangent moins que leurs frères et sœurs vivent plus longtemps.
De combien en moyenne?
Ce sont des effets qui sont vraiment significatifs, donc des allongements d'une vingtaine de pourcents de la durée de vie. Donc, ce qui, si à l'échelle d'une vie humaine, ce serait par exemple 15 ou 20 ans.
Ouais, on peut extrapoler comme ça, vraiment, entre la durée de vie en plus d'une souris et le stade humain?
Oui.
Et en quoi ces questions de restriction calorique ont un lien aujourd'hui, et c'est ce qu'on découvre avec ce travail, avec la génétique et avec notre ADN?
Donc encore une fois, l'observation est assez ancienne, que la restriction calorique a un effet positif sur la durée de vie, que c'est vrai chez beaucoup d'espèces, donc des mammifères, mais aussi beaucoup d'autres espèces. La question qui a été d'intérêt pour la recherche, c'est de comprendre moléculairement comment ça se passe, donc comment expliquer cette observation. Et donc il y a vraisemblablement différents processus, mais l'un d'eux repose notamment sur l'effet de notre nourriture sur notre génome et sur l'épigénome.
Alors, le génome, on voit à peu près ce que c'est notre ADN.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est l'épigénome ?
Alors, donc, l'épigénome, c'est un ensemble de marques, en fait, qui est posé sur l'ADN. Alors, si on peut utiliser une image dans laquelle le génome, ce serait un grand texte, un grand livre, et sur ce texte, il peut y avoir des marques, par exemple, des passages qui sont passés au stabilo ou qui sont soulignés ou sur lesquels on a fait une petite marque de bas de page. Et donc, l'épigénome, c'est l'ensemble de ces marques qui sont sur le génome et qui permettent aux cellules de savoir que telle partie du génome doit être utilisée dans telle condition ou non utilisée.
Et le vieillissement a un impact sur ces marques dont vous parlez, ces notes ?
Tout à fait. Donc, ce qu'on a observé depuis une dizaine d'années, c'est que donc ces marques, d'abord, on peut les cartographier. Il existe un ensemble de techniques qui permettent une bonne cartographie des marques épigénétiques. Et on voit que au cours de l'âge, en fait, ces marques ont tendance à devenir moins précises. C'est-à-dire que si on compare un centenaire à un enfant, on voit que les marques du centenaire sont différentes de l'enfant. Et donc, au cours du temps, ces marques, elles ont effectivement tendance à s'estomper. Pour reprendre l'image qu'on utilisait tout à l'heure, c'est un peu comme si le stabilo s'effaçait ou au contraire, comme si l'encre bavait un peu et allait marquer des passages qui n'étaient pas marqués initialement.
Et ça veut dire que la quantité de nourriture ingérée influence tout cet environnement épigénétique là que vous décrivez ?
Absolument. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part la quantité, il y a aussi la nature de la nourriture ingérée.
La qualité intrinsèque
exactement,
de la nourriture ?
Exactement. C'est-à-dire le pourcentage de lipides, des choses comme ça, par exemple.
Et comment ces chercheurs de l'université Temple en Californie en arrivent à cette découverte ? Quelle est leur démarche pour faire ça ?
Donc c'est comme souvent dans la recherche, ça se base sur leurs compétences et leur historique de recherche. Donc c'est une équipe qui est tout à fait reconnue et qui publie d'ailleurs dans un journal renommé et depuis longtemps s'attache à cartographier les marques épigénétiques, notamment chez les personnes saines, mais aussi chez les personnes atteintes de cancer, pour détecter ces anomalies et tenter de les expliquer. Et donc ils ont impliqué ce type de technique, cette fois-ci non pas à des malades, mais à des animaux plus ou moins âgés, en utilisant plusieurs modèles, notamment la souris et un modèle de singe.
Est-ce qu'on a des études aujourd'hui, justement, sur les conséquences d'une prise de nourriture sur une pathologie ? On a des travaux là-dessus intéressants ? Parce qu'après tout, c'est ce qu'on mange qui nous constitue
tout
principalement.
À tout à
ça
fait.
Ça paraît être idiot de le dire, mais c'est vrai.
Alors, c'est tout à fait juste. Et donc, encore une fois, il y a une littérature assez dense et riche et intéressante sur la restriction, calorique, qui montre qu'en diminuant le nombre de calories, tout en respectant un équilibre et tout en évitant les carences de vitamines et d'oligo-éléments, etc., il y a un ensemble de conséquences bénéfiques vis-à-vis des maladies. Donc, ouais. Évidemment, moins de diabète, mais aussi d'autres maladies.
Professeur Amouyel, on va peut-être en parler avec vous, parce qu'il y a aussi des pistes de recherche dans ce domaine avec la maladie d'Alzheimer, très concrètement, sur le régime alimentaire.
Très concrètement, parmi ce qu'évoquait M. Bollin il y a quelques instants, des actions comme des régimes, ouais, très précis, en particulier le régime méditerranéen ou crétois, ont un effet sur le retard à l'apparition des signes.
Ouais. Donc ça, c'est bien étayé dans la littérature scientifique.
C'est bien étayé, c'est parmi les éléments qui sont les mieux étayés actuellement. Oui.
Mais au final, le fait que l'alimentation influence notre santé, l'espérance de vie, c'est des choses qu'on savait. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce travail sur la restriction en particulier ?
Donc il y a deux choses. Je pense que ça permet d'une part, encore une fois, de comprendre mieux cette observation qui est déjà ancienne. Maintenant, donc, on comprend que une des façons par laquelle la restriction calorique agit sur le vieillissement, c'est vraisemblablement par l'intermédiaire de ces marques épigénétiques. Et le fait qu'on comprenne mieux, ça offre des perspectives vraiment intéressantes, notamment médicamenteuses, pour essayer de voir si on peut développer des molécules qui vont reproduire les effets bénéfiques de la restriction calorique sans avoir nécessairement ces aspects contraignants.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi pas se restreindre directement plutôt que de prendre des médicaments qui agiraient comme la restriction ?
Exactement.
Ouais. Donc vous trouvez que le médicament, c'est plus efficace ?
Je ne sais pas si ce serait plus efficace, mais je pense qu'effectivement, bon, il y a toute la population n'est pas forcément prête à subir une restriction calorique.
Certes, professeur Amouyel.
En effet, le problème actuellement des populations dites développées, des populations qui se développent, c'est le surpoids.
Oui, absolument. Ouais. Exactement le contraire.
Une dernière question. Est-ce qu'il y a des ponts avec les recherches sur le microbiote, puisque le point central de tout ça, c'est l'alimentation et ça se passe dans notre intestin ?
Absolument. Et donc, je pense que le microbiote, c'est un autre, un autre domaine de recherche qui est extrêmement actif, et puisqu'on on a compris au cours de la dernière décennie que le microbiote, et notamment les micro-organismes qu'on a dans le tube digestif, ont un effet vraiment crucial sur notre santé. Et donc c'est tout à fait possible qu'à régime alimentaire égal, un microbiote différent ait des effets différents chez différentes personnes, avec des consequences sur la durée de vie.
Bon, un petit conseil à nous donner avant de partir. on a compris le message finalement.
Voilà, donc pas de sucre dans votre café à la pause.
Ah ben voilà, c'est au moins le conseil qu'on retiendra aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Pierre-Antoine Defossé, d'être venu dans notre studio. Et puis Axel, on se retrouve bien sûr demain.
À demain, Mathieu.
Pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, maintenir le réchauffement climatique en dessous d'1,5 degré, eh bien, c'est encore possible. C'est l'objectif qui avait été fixé par les accords de Paris à l'issue de la COP21. Eh bien, la bonne nouvelle vient d'une équipe de recherche internationale. D'après leurs analyses, l'ampleur du réchauffement climatique qui a déjà eu lieu a été surestimée. La quantité de carbone que l'humanité peut émettre à partir de 2015 en restant en dessous de ce seuil de 1,5 serait 3 fois supérieure à ce qui avait été annoncé. Les récents pronostics jugeaient l'objectif des 1,5 impossible à atteindre désormais. D'après l'un des auteurs, ce sera juste très très difficile. Si vous commencez à prendre de l'âge et donc à tendre de plus en plus l'oreille, vous avez de quoi envier les hiboux. En effet, ces animaux n'ont aucune perte d'audition à l'âge, contrairement aux mammifères, et les organes internes de leurs oreilles se régénèrent tout au long de leur vie. Une découverte faite grâce à des expériences menées sur les hiboux, mais qui pourrait être vraie pour tous les oiseaux. Une analyse plus fine des mécanismes biologiques de cette régénération pourrait mener à l'élaboration de traitements pour l'homme. Et puis si vous êtes parisien et habitué du métro, vous êtes peut-être déjà poser cette question. Quel trajet serait le plus court pour emprunter toutes les lignes les unes après les autres? Et puis, bien sûr, des chercheurs ont étudié la question et ils ont la réponse. Le trajet théorique le plus court compte 26 étapes. Part de la station Émile Zola sur la ligne 10, se finit à Saint-Fargeau sur la ligne 3 bis. Si on ajoute les 5 lignes du RER au problème, le nombre d'étapes d'ailleurs ne change pas. Mais en revanche, il vous faudra cette fois partir de Picpus sur la ligne 6. Les chercheurs ont également calculé le chemin le plus court pour faire une boucle en passant par toutes les stations. Un challenge mathématique complexe que certains d'ailleurs ont déjà relevé en vrai. Un certain Adam Fischer en 2011 avait parcouru les 302 stations du métro parisien en 13h37 et 54 secondes. Allez, Alzheimer, c'est le dossier dans un instant.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu?
Et c'est Jacqueline Taillet avec 7h du matin à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Demain, 21 septembre, journée mondiale Alzheimer. C'est le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités Philippe Amouyel et Sébastien Boller. Philippe Amouyel, vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la fondation Plan Alzheimer et vous êtes à la tête du LabEx Alzheimer Distals. Et Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau Psycho qui consacre donc sa une aux nouvelles raisons d'espérer autour de la maladie. Une émission aujourd'hui en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale qui consacre un dossier bien sûr à cette question que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation. Et puis vous nous rejoignez avec vos courriels franceinter.fr, vos messages sur Facebook et le mot-clé l'attaque. Professeur Amouyel, la maladie d'Alzheimer, c'est une épidémie, hein, je le disais tout à l'heure, à l'échelle du globe. Quels sont les chiffres actuels? Je parlais d'à peu près 50 millions de personnes et surtout les projections pour l'avenir, c'est assez effrayant quand même. Hein.
Alors aujourd'hui, à chaque seconde, toutes les 4 secondes, pardon, on diagnostique un cas de maladie d'Alzheimer sur Terre. Le chiffre est environ de 48 millions diagnostiqués. Mmh. Ouais. Et on estime qu'en 2050, ce sera 135 millions.
Oui, 135 millions. Ouais. Donc la courbe ne cesse de croître. Hein.
La courbe ne cesse de croître, mais on a quand même des raisons d'espérer. Puisqu'on s'aperçoit que dans certains pays, alors la courbe continue à croître. Mmh. C'est comme quand une baignoire se remplit ou se vide. Il y a le robinet qui la remplit et il y a la bonde qui élimine l'eau. La bonde, elle se rétrécit parce que l'espérance de vie augmente, donc le niveau d'eau monte. Mais on a l'impression que dans certains pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays riches, on va dire, le robinet est en train de se fermer un petit peu. Et ça, c'est vraiment très intéressant et porteur d'espoir aujourd'hui.
Et comment on l'explique?
Alors voilà, ça c'est une la deuxième question qu'on peut se poser.
C'est bien de voir le robinet qui se ferme. Mais
ouais, donc on a eu le robinet qui se ferme. D'abord, on n'y a pas cru. Hein. Il faut le dire comment ça s'est passé. Il y a 5 ans, les Hollandais ont sorti une étude. On s'est tous dit, il y a un biais quelque part. On a vérifié. Ben non, ils avaient raison. Quand on fait certaines analyses, on s'aperçoit que ça diminue. Alors la première chose qu'on fait, c'est quelle en est la cause. Et pour ça, il faut connaître les facteurs de risque. On en connaît un certain nombre, qui sont l'environnement, qui sont notre niveau d'éducation, qui sont ce que nous mangeons, ce qu'on a vu il y a quelques instants. Oui. Et ce qu'on essaie de corréler ensuite, c'est les évolutions de ces grands facteurs. Et un des facteurs majeurs qui a bougé sur les 50 dernières années, c'est le niveau d'éducation des populations. Je prends juste un exemple. En France, la référence avant 45, c'était le certificat d'études. Aujourd'hui, c'est le bac. Alors, on en pense qu'on veut du bac, mais c'est 4 ans d'études en plus, immédiatement. On pense que ça a des effets, et l'effet en France en particulier, est particulièrement vrai chez les femmes. Ouais. Vraiment progresser dans ce sens-là. Le deuxième grand facteur de risque qu'on a trouvé, c'est ce qu'on appelle le risque vasculaire. Aujourd'hui, les cardiologues font des merveilles, ils traitent les gens, il y a de plus en plus de gens qui vivent, et on s'aperçoit que malheureusement, ils ont un risque un peu plus élevé de ce genre de maladie. Et les facteurs de risque vasculaire, maintenant, globalement, ont tendance à diminuer. On traite mieux la pression artérielle, l'hypertension artérielle, on traite mieux la dyslipémie. On pense que c'est un des effets qui explique cette baisse. Donc, ça veut dire que si tout ça marche, on a peut-être une chance de modifier les choses.
Donc, on voit bien la complexité aussi, parce que tout ça est multifactoriel, avec des facteurs sociaux, Sébastien Boller, auxquels on ne penserait pas forcément comme ça tout de suite, en les associant à une pathologie comme Alzheimer.
Alors, effectivement, un des facteurs vraiment décisifs dans la vulnérabilité à la maladie, c'est l'isolement social. Ça fait partie des grands facteurs. Le cerveau est un organe dont une des premières fonctions, c'est de traiter les signaux sociaux de l'environnement. Quand vous interagissez avec vos amis, avec votre collègue, votre cerveau fonctionne de façon très très globale, très très intégrative. Et ça explique qu'il y ait les personnes qui effectivement sont dans un tissu social bien inséré, bien nourri, bien actif, sont protégées en partie effectivement de l'apparition de cette maladie. Mais c'est un des facteurs évidemment. On a parlé de l'alimentation, on a parlé du niveau d'éducation et de l'activité physique aussi.
C'est ce qui fait toute la complexité d'une telle pathologie neurodégénérative justement. C'est tous ces facteurs qui peuvent entrer en compte et qui évidemment peuvent agir aussi différemment selon les individus.
Alors, c'est en fait cet environnement très large, mais pourquoi est-ce qu'on a tous ces facteurs? C'est parce que la durée, l'évolution de la maladie est extrêmement longue. Ces facteurs vont s'imprimer sur l'individu pendant 20, 10 ou 30 ans. Ouais. Donc leur niveau d'expression va être très difficile à déterminer. Il n'y a que maintenant qu'on commence à vraiment comprendre comment tout ça interagit. On parlait de l'isolement, un facteur simple, la vie en couple, à deux, quel que soit le couple, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa nature, réduit d'environ 30 à 40% le risque de faire une maladie d'Alzheimer.
C'est
alors
énorme,
que la vie seule
énorme.
L'augmente à l'inverse. Donc ces éléments sont extrêmement importants. Et puis c'est assez logique biologiquement, parce que ce cerveau-là ne survit que parce qu'il est stimulé. Et le lien social stimule, l'isolement ne stimule pas par définition.
On va écouter ensemble l'extrait du film Floride, sorti en 2015, souvenez-vous, avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlin, un film de Philippe Le Guay.
Non mais papa, tu peux pas accepter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un pour faire tes courses, ton ménage, tes repas, sans parler du reste? Parce que moi je peux pas, je travaille là, tu sais.
Oui, je sais. Tu m'as flanqué dehors et tu as pris ma place.
Bon, j'allais prendre mon sac, je t'ai apporté de l'argent.
J'en ai pas besoin, je peux faire des retraits.
Mais non, tu peux plus, c'est moi qui m'occupe de ton compte.
Mais depuis quand?
Mais depuis que t'as acheté 6 fauteuils de guéridon, qu'un brocanteur t'a soutiré 5000 euros pour une croûte soi-disant impressionniste.
C'est pas un brocanteur, c'est un antiquaire.
Mais un antiquaire. Regarde-moi ce capharnaüm, là. Regarde-moi ce salon, on peut même plus s'asseoir tellement c'est encombré. Mon petit papa, je me demande ce qu'on va faire de toi.
Oh, ne te dis pas, je peux très bien me débrouiller tout seul.
Mais non, tu sais plus trop te débrouiller tout seul. Ça devient vital de faire un petit diagnostic.
Un diagnostic? Mais j'ai une tension de jeune homme et j'ai un cœur de marathonien.
Mais il s'agit pas de ton cœur.
Il s'agit de quoi alors?
Voilà, il s'agit du cerveau en l'occurrence avec cette maladie d'Alzheimer. On voit les symptômes s'installer hein, au fil du film Floride, donc avec Jean Rochefort et Sandrine Kimberlin. Le diagnostic évidemment, et plus on arrive à voir les premiers signes tôt, professeur Amouyel, et plus on a des chances de pouvoir agir sur la maladie, ou il est déjà trop tard en réalité.
Alors une fois que la maladie est enclenchée, et on le sait cliniquement, si on ne doit pas la rechercher, on le sait cliniquement par l'apparition des premiers symptômes, les troubles de la mémoire, les troubles du comportement, l'évolution est progressive et fatale. Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut être clair. Et on se demande même si, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, qui s'est améliorée de comment progresse cette maladie, si ce n'est pas la traduction, finalement, d'un dépassement des capacités d'adaptation du cerveau. Et que cette maladie qui aurait évolué pendant 10, 20 ou 30 ans, jusque-là silencieuse, le cerveau a des capacités à compenser. Malheureusement, à un moment, la maladie est telle qu'il ne peut plus. Les premiers symptômes apparaissent et ensuite, l'évolution est progressive. Mm-hmm. Ça dépend du stade auquel on fait le diagnostic, mais malheureusement aboutit généralement au même problème.
Sébastien Boller, on voit toute la difficulté justement de prendre en charge la maladie avec ce cerveau qui peut avancer masqué finalement.
Oui, alors c'est effectivement, ce qu'on appelle la phase prodromale de la maladie, c'est une phase silencieuse. Mm-hmm. Et aujourd'hui, alors on avait interviewé effectivement par exemple le professeur Dubois qui s'occupe justement de dépistage précoce, qui nous disait souvent ça peut être pendant 7 à 10 ans des lésions du cerveau qui sont déjà là, qui sont provoquées par les fameuses plaques amyloïdes ou la protéine tau. Enfin, mm-hmm. Il y a les deux grands types de lésions, on en reparlera peut-être. Ces lésions sont déjà présentes, le cerveau a déjà subi des atteintes, mais évidemment on ne les voit pas tant qu'on n'a pas fait une IRM, tant qu'on n'a pas fait un scan. Et effectivement, comme le disait le professeur Amouyel, le cerveau se débrouille pour compenser, pour fonctionner, malgré ces premières atteintes silencieuses et invisibles. Oui. Et là, pour tirer la sonnette d'alarme au bon moment,
c'est ça
qu'on trouvait intéressant dans l'extrait que vous avez passé, c'est qu'on voit que chez certaines personnes âgées, en général, il y a des premiers signes avant-coureurs, et il peut y avoir une sorte de déni ou une difficulté de reconnaître que le symptôme est là, et l'entourage parfois n'est pas très informé. Ne réagit pas très vite, alors qu'il faudrait réagir assez vite. Là, heureusement, aujourd'hui, les batteries de tests en neuropsychologie qui permettent de faire la distinction entre une perte de mémoire due au stress, à la fatigue, mm-hmm. et une vraie atteinte d'origine lésionnelle, d'origine pathologique, ces tests existent, fonctionnent assez bien. Et s'ils sont administrés avec acuité, peuvent identifier cette phase prodromale à temps pour prendre les mesures d'accompagnement ou de traitement de façon précoce. Mmh.
Professeur Amouyel, donc tout l'enjeu il est là, hein, c'est de pouvoir peut-être repérer ce moment où le cerveau déjà commence à lutter alors que les signaux sont pas encore très clairs.
Pour la recherche, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire savoir ce qui se passe avant pour traiter le plus tôt possible. Pour la clinique, l'enjeu est de faire un diagnostic le moins tardif possible, c'est-à-dire le plus précoce. Il ne s'agit pas de dépister réellement au sens de « vous n'avez rien, vous allez voir quelqu'un, il va vous dire si vous avez une maladie d'Alzheimer ». De toute façon, on ne pourra pas vous proposer grand-chose. En revanche, quand il y a...
Et c'est une vraie question éthique, hein, on en reparlera
tout
avec
à
vous.
Fait. Hein. Et en revanche, quand il y a... Alors, on a tous des troubles de mémoire. Passé 40 ans, il ne faut pas se voiler la face, on oublie les noms propres, c'est la première chose qu'on oublie. On peut oublier sa voiture dans un immense parking ou son semi-lunette, mais ça nous agace. Ça nous amène à nous poser des questions, mais ça ne nous gêne pas socialement. Quand il y a une gêne sociale, qu'elle soit chez l'individu qui souvent la nie, ça c'est ce qu'on voit souvent chez les patients, ou par l'entourage qui dit tiens, il y a des comportements, c'est cette gêne sociale qui suscite une consultation chez un médecin généraliste. Puis ensuite, une consultation dans un centre de mémoire. Et là, il ne faut pas rejeter la question en disant c'est banal, c'est normal, c'est l'âge. Il faut savoir si c'est ça, c'est-à-dire le banal l'âge, ou si c'est une réelle maladie. Pourquoi ? Parce que plus on diagnostiquera à partir de cette souffrance la maladie le plus tôt possible, plus rapidement, on pourra prendre les mesures utiles, parce qu'il en existe des mesures
alors
de
c'est
prise
ça, j'allais
vous
dire, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que...
Il existe des mesures de prise en charge. Bon, le premier élément, c'est de déterminer le stade d'évolution. C'est ce que vont faire les équipes de neurologues. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut appliquer. C'est-à-dire que tous les éléments de soutien environnementaux, sont des éléments importants. Par exemple, on parlait de l'alimentation, on parlait des facteurs de risque vasculaire, et vont permettre finalement de repousser le plus tard l'échéance de la perte d'autonomie, parce que c'est ça l'objectif que l'on va avoir ensuite. Le deuxième élément, c'est que prendre en charge cette perte d'autonomie est compliqué. Il faut le faire longtemps à l'avance, il faut le préparer, il faut faire en sorte que les gens acceptent tout ça. Si on le fait ça dans l'urgence, au dernier moment, on a forcément des drames familiaux. Puis dernier point, quand on a encore ses fonctions, on peut encore choisir, on peut savoir ce que l'on veut faire, et c'est important de pouvoir le faire, même si l'information est douloureuse, en pleine connaissance de cause.
Jean-Paul demande, la maladie d'Alzheimer, est-ce que c'est une maladie de la vieillesse, ou est-ce qu'elle atteint aussi aujourd'hui des sujets plus jeunes? Ils sont plus rares quand même, hein?
Il existe sur 100 cas de maladie d'Alzheimer, 2 qui surviennent avant 65 ans, la plupart survenant après 65 ans. Ces formes jeunes, comme on les appelle, sont des formes très particulières, puisque souvent, pour la plupart d'entre elles sont héréditaires, c'est-à-dire qu'elles se transmettent familialement comme une maladie génétique, et que les risques sont élevés. Les débuts de maladie sont aux alentours de 30, 40, voire 50 ans. C'est 2% des cas. En revanche, le reste de la maladie, le facteur principal, c'est l'augmentation de l'espérance de vie.
Chez les jeunes, on ne trouve absolument aucun cas de maladie d'Alzheimer.
Jeune à partir de quel âge?
Chez les plus jeunes en tout cas.
Non, chez les plus jeunes, non. Je crois que les cas les plus jeunes ont dû être diagnostiqués à 25 ans, 27 ans, et c'était des formes familiales également.
C'est quand même déjà très jeune. Sophie dit, d'après ce que je sais, les traitements actuels contre la maladie ne sont efficaces que sur les 6 premiers mois de celle-ci, donc avant qu'elle ne soit diagnostiquée des années après. Les patients qui suivent ces traitements ne deviennent-ils pas des cobayes obligés de subir des effets secondaires nombreux pour peu ou pas de résultats sur la maladie?
Alors les seuls traitements qu'on a aujourd'hui sont des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas sur la maladie, ils jouent sur les symptômes. Le symptôme principal qu'ils touchent en général, c'est la mémoire. Ils essaient de stimuler un peu la mémoire en jouant sur les neurotransmetteurs qui font fonctionner cette mémoire. Donc c'est normal que leur effet ne va pas durer très longtemps, et on les arrête lorsque les effets secondaires sont trop importants ou lorsqu'il n'y a plus d'effet. Mais c'est toujours difficile d'arrêter un traitement.
Dans un instant, la suite de notre dossier, à la veille donc de cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, et vos messages déjà nombreux sur le site de la Tête au Carré. nouveau titre de Phoenix avec Ti Amo.
La tête au carré sur France Inter.
C'est une affaire à rebondissement. Il y a 15 jours, la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé préconisait la fin du remboursement des médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Argument des experts, il serait inefficace et coûteux.
Alors une semaine plus tard, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Marisol Touraine, réagissait en s'opposant fermement à ce déremboursement. Et c'est aujourd'hui à 3 syndicats de médecins libéraux de monter au créneau. Leur prise de position est sans ambiguïté. Ils recommandent aux médecins de cesser de prescrire ces médicaments.
Ça fait plusieurs années que les généralistes s'opposent à ces médicaments, dont on constate la faible efficacité et la dangerosité. Ça entraîne des malaises cardiaques, ça entraîne des chutes. Il y a quand même un paquet de médicaments qui ont l'ASMR5, qui coûtent des milliards, et on pourrait largement utiliser ça autrement.
ASMR5, ça veut dire qu'ils sont jugés peu efficaces.
Exactement,
ou inefficaces.
Exactement.
Voilà, c'était le magazine de la santé sur France 5 il y a un petit peu moins d'un an autour donc de la question des médicaments et de leur remboursement. Professeur Amouyel et Sébastien Boller, vous êtes avec nous cet après-midi pour parler d'Alzheimer. Une réaction, professeur Amouyel, les propos de ce généraliste étaient très clairs. Hein. Ces médicaments ne servent à rien, donc pourquoi les rembourser?
Je pense que ça, c'est une question qu'on peut
vous
se poser.
Vous êtes aussi radical que ça?
Beaucoup de médicaments. Ouais. Il faut utiliser les médicaments pour ce à quoi ils sont faits, c'est-à-dire un traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer, pas un traitement définitif et curatif de la maladie d'Alzheimer. Donc, utilisés dans l'indication pour laquelle ils sont recommandés, ils sont en effet actifs chez à peu près 15 à 20% des personnes, et il faut savoir les arrêter quand ils ne sont pas actifs.
Et quelle activité ils ont alors chez ces personnes?
Ils améliorent les capacités mémorielles en réduisant la destruction de neuromédiateurs qui interviennent dans la mémoire, mais ils ne marchent pas chez tout le monde et ils marchent pendant une période limitée. Et c'est ça que le médecin doit déterminer avant de savoir s'il se lance dans la prescription ou non.
Ouais, c'est toute la difficulté de trouver la bonne molécule qui pourrait un jour fonctionner, parce que c'est aussi lié à cette complexité du cerveau, hein, Sébastien Boller.
Oui, c'est la question des médicaments, elle est un petit peu déprimante quand on la prend comme ça, quand on a commencé à éditer ce dossier. Effectivement, il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Quand on creuse un petit peu, quand on prend une optique vraiment de recherche fondamentale, on se rend compte qu'il y a une très belle recherche qui est faite quand même, qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de molécules qui donnent des résultats parfois très impressionnants chez la souris, qu'il y a aussi des médicaments qui sont en essai clinique. Dans les différentes phases d'essais cliniques plus ou moins poussées, il y en a qui sont en phase 1 sur des petits échantillons de patients, d'autres, il y en a qui sont en phase 3 sur des grands échantillons, comparent l'effet d'un placebo. Et certains donnent des résultats intéressants, par exemple pour diminuer la quantité de plaques amyloïdes dans le cerveau des patients, parfois de façon spectaculaire, on le voit en imagerie cérébrale. Et donc il y a quelque chose, il y a des médicaments qui arrivent. Certains grands spécialistes qu'on a interviewés dans notre dossier nous disent probablement qu'un jour on aura un traitement qui aura des vrais effets, mais la question, ce sera de l'utiliser au bon moment, parce que souvent, que ce soit des anticorps, par exemple, comme on en parle dans ce dossier-là, qui fonctionnent bien pour réduire la quantité de plaques amyloïdes, chez des patients qui sont dans des stades assez avancés de la maladie, ne fonctionnent pas. Il pourrait y avoir un effet peut-être dans des stades précoces. Et si un jour on a un médicament, et certains sont persuadés qu'on y arrivera, la question ce sera finalement, il faudra arriver à les administrer au bon moment. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est d'arriver à détecter la maladie assez tôt.
Professeur Amouyel, si on a déjà des résultats quand même sur les plaques amyloïdes, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on arrive à résorber les lésions de temps en temps?
Alors, biologiquement, on a des effets avec toutes les hypothèses qui ont été émises et qui sont la force aujourd'hui de la compréhension de ces mécanismes et des médicaments qu'on a créés. Le seul problème, c'est que les effets cliniques que l'on obtient, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les personnes améliorent leur fonction intellectuelle, sont tous négatifs. Et c'est ça qui est désespérant. Donc, réflexion, est-ce que notre hypothèse est fausse? Ou est-ce qu'on s'est trompé quelque part? La question, est-ce qu'on s'est trompé de cible, mais est-ce qu'on s'est trompé de personne? Et les connaissances qui se sont accumulées, qui montrent que la maladie évolue sur 20 à 30 ans, le fait que le cerveau puisse compenser et puis ne compense plus, les symptômes apparaissent, on s'est dit, peut-être qu'on commence trop tard. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe si on arrivait à commencer plus tôt. Donc les trois essais les plus intéressants, dont les études devraient sortir en 2021-2022, sont des essais qui ciblent des individus dont on sait à 98% qu'ils vont développer une maladie d'Alzheimer,
oui,
et qu'on
ça.
Traite avec ces molécules.
Il faut en être sûr, pour le coup, oui. Parce qu'on peut déjà déceler des signes avant-coureurs, mais qui n'iront pas jusqu'au développement réel de la maladie, avec le dépistage précoce.
Ou alors, ce qu'on peut, dans des populations particulières qui relèvent de la recherche clinique, en particulier les formes héréditaires dont je parlais, les formes jeunes, elles sont souvent associées à une modification d'un gène. Donc ça permet de savoir, en testant ce gène, si le patient aura la maladie ou pas.
Forte hérédité autour d'Alzheimer ou pas?
Alors, L'hérédité dont je parlais il y a quelques instants, c'est l'hérédité qui touche ces 2-3 personnes qui peuvent tomber malades, qui font souvent des maladies extrêmement jeunes. Mmh. Pour 98% des cas, il n'y a pas d'hérédité.
Voilà, il faut rassurer les gens qui nous écoutent.
Il n'y a pas d'hérédité, il y a juste une susceptibilité, comme certains font plus souvent des rhumes, malheureusement certains font plus souvent des maladies cardiaques ou des maladies d'Alzheimer. Ouais. On est à ce niveau-là, mais pas d'hérédité
voilà,
à proprement
parler.
C'était
important de le repréciser. Laurent demande ceci, votre invité a parlé tout à l'heure d'héritage génétique, est-ce un facteur déterminant? Donc vous nous répondez à peu près la même chose.
Alors, il y a un facteur terrain, mais ce qui est important, c'est que pendant 20 à 30 à 40 ans, notre corps va être exposé à un environnement et toute l'épigénétique qu'on évoquait il y a quelques instants va s'exprimer certainement dans le développement de cette maladie.
Cette question de Delphine, enfin ce témoignage, ma mère a eu une très très bonne hygiène de vie toute sa vie, sport jusqu'à 75 ans, alimentation saine, peu de viande, elle ne fumait pas, ne buvait pas, que occasionnellement, elle est malade depuis 8 ans maintenant et par palier, elle s'éloigne peu à peu de nous. Professeur Amouyel, qu'est-ce que vous répondez à Delphine alors? Puisqu'on parlait, et on va en reparler avec vous, de l'hygiène aussi, hein, on a des choses intéressantes là-dessus.
Alors, l'hygiène... Enfin, la qualité de vie, je préfère employer ce terme, ou les habitudes de vie, sont importantes dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Mais ils n'expliquent pas tous les cas de maladie d'Alzheimer. On estime aujourd'hui que 35 à 40% des cas s'expliquent par ces différences d'hygiène de vie.
Ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire que sur une perspective de santé publique, d'épidémiologie, face à l'épidémie qu'on évoquait au début de l'émission, on peut tout à fait imaginer qu'on aurait un moyen d'action qui permettrait d'attendre, parce que le coût et la charge humaine et économique va être terrible. Donc, ça nous permettrait d'attendre. Mais de fait, certaines personnes vont quand même développer la maladie, quelles que soient leurs habitudes de vie. Alors, ce qu'on va voir quand même, c'est que le fait d'avoir ces habitudes de vie positives permet de repousser l'âge de début, même si elles ne peuvent pas stopper la maladie. C'est-à-dire que cette personne aurait peut-être pu faire sa maladie plus tôt si elle n'avait pas eu ces habitudes de vie.
Est-ce que ça peut amoindrir son intensité également ou pas?
Alors non, puisque l'évolution évolue de manière extrêmement régulière et finalisée, donc non. Mais en revanche, le moment où apparaissent les symptômes peuvent être repoussés.
Sébastien Boller, c'est l'angle que vous avez choisi d'ailleurs pour le dossier, hein, c'est d'explorer toutes les pistes qui donnent de l'espoir quand même aujourd'hui, parce qu'heureusement, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut agir, et très tôt. Hein.
Oui, alors ça c'est la question des facteurs protecteurs, hein. Effectivement on a commencé à l'évoquer. Nous on a choisi de faire intervenir des personnes qui étaient dans les équipes de recherche dans un projet qui s'appelle le projet Finger.
Oui.
C'est un projet finlandais de suivi d'une cohorte de personnes, alors il y en avait à peu près 1200 ou 1300, sur 2 ans, pour essayer vraiment de tester un certain nombre de choses que les spécialistes commençaient à sentir. Hein. C'est ce qu'on appelle les études d'association. On voit par exemple que les personnes qui mangent plus sainement, qui mangent beaucoup d'oméga-3, les régimes crétois, du poisson, ces choses-là, qui font du sport régulièrement, comme le disait cette auditrice, qui font de l'exercice physique, qui ont un bon niveau d'éducation, ont l'air en général d'avoir moins de risque de développer la maladie, mais c'était difficile à le prouver vraiment. Et donc il y a eu cette étude de grande échelle en Finlande qui a été lancée, qui a consisté justement à soumettre 600 personnes à finalement un simple programme de sensibilisation à ce que c'est que une bonne hygiène de vie pour prévenir la maladie d'Alzheimer, et un autre groupe cette fois-ci vraiment soumis à un véritable programme de sensibilisation puis de mise en pratique de ces bons conseils, donc des personnes qui devaient faire du sport, mais alors c'était à une bonne fréquence, par exemple il faut faire au moins 3 heures de sport d'endurance par semaine, avec des conseils diététiques qu'il fallait vraiment mettre en action, des exercices cognitifs aussi. Et effectivement, déjà au bout de 2 ans, c'est aperçu que les performances cognitives chez le groupe qui avait connu ce programme, concrètement de bonne hygiène de vie, étaient bien meilleures que le groupe qui avait vieilli, puisque c'était des personnes d'un certain âge, sans la mise en application de ces principes. Et ils se sont ensuite aperçus qu'effectivement, ça pouvait retarder aussi l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Donc il y a une liste de conseils liés à l'alimentation et à l'activité physique qui a été dressée, c'est ça?
Voilà, il faut des activités physiques d'endurance, qu'on appelle les activités aérobies. Alors ça peut être le vélo, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la natation. Alors dans leur programme, ils faisaient aussi de la musculation en salle, 2 ou 3 fois par semaine.
Et quand même, déjà.
Voilà. Oui, mais ça veut dire qu'il faut quand même le faire de façon un peu soutenue. C'est pas juste une fois le week-end, ça, ils insistent beaucoup là-dessus.
C'est ça,
Voilà. Et puis les autres facteurs, c'est effectivement, là, on revient là-dessus, c'est le niveau d'éducation.
Et les interactions sociales.
À la fois tout petit, à la fois très jeune, puisqu'on se rend compte que quand on fait un petit peu d'études rétrospectives sur ce qu'ont fait les personnes dans leur enfance, est-ce qu'ils ont été beaucoup emmenés au musée, est-ce qu'ils ont lu beaucoup petit, on se rend compte que c'est protecteur, mais à condition aussi d'être entretenue dans les âges ultérieurs. C'est-à-dire qu'il faut que quand on arrive à dépasser 65 ans, qu'on entretienne ce matelas de neurones un petit peu, en gardant ses bonnes habitudes, en se cultivant, en discutant beaucoup, en sortant, en lisant. Ça fait partie de ce qu'on appelle la réserve cognitive.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe justement dans ces cas-là? On fabrique des neurones, on en fabrique plus en tout cas que si on n'avait pas ces interactions ou ces activités-là?
Malheureusement, passé 20 ans, vous fabriquez plus de neurones. Vous avez votre stock de neurones qui est défini. On estime qu'il est entre 80 milliards et 100 milliards de neurones.
Ah, je pensais qu'on en fabriquait encore toute la vie, que ça faisait partie des...
Non, alors vous en fabriquez un tout petit peu dans certaines zones du cerveau, justement dans l'hippocampe et en particulier également dans le cervelet, mais c'est très faible. Vous devez en faire 200 à 600 par jour maximum, alors que vous en avez 100 milliards qui se sont développés pendant votre enfance et pendant la grossesse. Donc, et après, on pense son temps en perdre. Sauf que ces neurones ont une capacité extrêmement importante à établir des connexions entre eux. Un neurone peut se connecter à près de 10 000 autres neurones. Donc quand vous multipliez 10 000 par 100 milliards, vous obtenez 100 millions de milliards. Donc un nombre incroyable de connexions. Et c'est à travers ces connexions que va se produire la plasticité cérébrale. Je prends un exemple. Un musicien, un violoniste, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise beaucoup sa main, il l'associe au son. Et quand on regarde avec des IRM fonctionnels
son
comment
cerveau,
tout ça fonctionne, son
les
cerveau,
zones de son cerveau,
les zones de son cerveau, il n'a pas les mêmes zones, il n'active pas les mêmes zones quand il entend quelque chose que vous et moi. Autre exemple, une étude relativement simple. Ils ont pris des gens qui avaient l'habitude d'aller sur Internet et des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur Internet. Ils les ont fait lire. Ils sont aperçus que quand ils lisaient, dans ces espèces de machines qui voient comment vos cellules s'activent dans le cerveau, ils sont aperçus que ceux qui lisaient, qui avaient été sur Internet, activaient deux ou trois autres régions que les autres n'activaient pas. Donc c'est cette activation et cette plasticité cérébrale qui fait qu'on estime qu'il existe une certaine réserve cognitive. C'est ça qui fait qu'on pense qu'aujourd'hui, cela aide le cerveau à résister à la maladie.
Allez, on se retrouve dans un instant et on consacre la dernière partie au message des auditeurs qui sont très nombreux sur le site de La Tête au Carré. À tout de suite.
Éternel été, beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai. L'effet du hasard,
l'effet du hasard,
ne le retiendra,
ne le retiendra,
parfois trop ardent,
parfois trop ardent,
l'éternel été,
l'éternel été.
Ezekiel Palès avec Éternel été sur France Inter. Le professeur Philippe Amouyen et Sébastien Boller de Cerveau et Psycho sont mes invités pour parler d'Alzheimer, donc à la veille de la journée mondiale. Avec beaucoup de messages des auditeurs, je voudrais juste qu'on écoute ce reportage de 2016 autour d'une des dernières découvertes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'était en mars de l'année 2016.
Atteint d'Alzheimer, cet homme de 58 ans a du mal à nommer des objets du quotidien.
C'est pour...
Mais sa mémoire n'est pas perdue pour autant. Elle serait logée quelque part dans son cerveau. C'est la maladie qui l'empêche d'y accéder. C'est ce que des chercheurs américains viennent de découvrir. Voici comment. Une souris saine et une souris Alzheimer reçoivent un choc électrique. Un jour après, on les remet dans la même cage. La souris saine a peur, elle se souvient. La souris malade, qui a perdu la mémoire, ne réagit pas. C'est grâce à une impulsion lumineuse dans une zone précise du cerveau que la souris malade retrouve la mémoire. À nouveau dans la cage, elle prend peur elle aussi. Cette expérience réalisée en laboratoire ne concerne pour l'instant que les souris. Dans l'avenir, elle pourrait peut-être permettre aux 900 000 malades d'Alzheimer en France de retrouver le chemin de la mémoire.
Alors on avait envie de savoir ce que vous en pensiez, professeur Amouyel, parce qu'on se dit, si la mémoire est nichée quelque part et qu'elle est juste empêchée, la maladie n'est pas forcément irréversible alors.
Alors, c'est une expérience qui est tout à fait passionnante sur le fonctionnement de la mémoire, ouais. Ça c'est clair. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié les neurones de la petite souris et ils ont mis une molécule qui, lorsqu'on envoie de la lumière bleue, active de manière massive la cellule. C'est-à-dire comme si elle donnait un choc électrique qui intervenait là-dessus. Donc, il faut d'abord que, pour que ça marche, il y ait des cellules. Et apparemment, les cellules contiennent en mémoire l'information. Donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que finalement, la cellule qui n'avait peut-être plus de contact, ils ont réussi à restaurer, à restimuler et à faire en sorte que les petites souris se souviennent. Donc ça, c'est le fait qui est absolument passionnant sur la compréhension dont tout ça fonctionne. Si on transpose ça à l'homme, certes, il faut que les neurones soient là. Or, quand quelqu'un a une maladie d'Alzheimer avancée, la grande particularité, c'est qu'il existe ce qu'on appelle une atrophie du cerveau. Et cette atrophie, elle est due à la disparition d'un grand nombre de neurones. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on peut restaurer à des stades précoces, dans un futur qui reste à définir, ce genre de choses. Mais là encore, ça va dépendre du stade d'évolution de la maladie, si on doit mettre ça en place.
Allez, on consacre la dernière partie aux questions des auditeurs. Olivier demande, est-ce que de nouvelles techniques d'intelligence artificielle peuvent aider au dépistage de la maladie? Sébastien ou professeur Amouyel, qui a une réponse?
Alors, intelligence artificielle, non, mais l'étude, ce à quoi sert l'intelligence artificielle, entre autres, c'est analyser les grandes bases de données. On s'aperçoit que ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire faire une tâche, est un signe qui pourrait être précoce de maladie d'Alzheimer. Et il y a des gens comme ça qui essaient de mettre en place des algorithmes et qui voient comment vous utilisez votre téléphone portable. Donc ils regardent vos communications, ils n'écoutent pas vos communications, ils les regardent, suivant leur fréquence, il y a des baisses brutales, ils se disent tiens, il y a peut-être quelque chose là. Donc ça pourrait être un outil de dépistage, on va dire, de masse en général, pour détecter très précocement des signes. Mais intelligence artificielle, c'est quelque chose qui travaille pour vous, donc une automatisation de quelque chose.
Thibaud nous dit, infirmier en unité de vie protégée, je me demande pourquoi cette maladie est tellement différente d'un patient à l'autre. Qui veut répondre? Professeur Amouyel.
Alors, différente comme toutes les maladies, mais la particularité, c'est l'expression de cette maladie qui est différente suivant les gens, suivant votre niveau d'éducation, suivant vos habitudes de vie, suivant le stade d'évolution auquel vous êtes, suivant les médicaments que vous prenez ou que vous ne prenez pas, l'expression de la maladie va être très différente. Vous pouvez avoir des gens qui vont avoir des formes apathiques de la maladie, qui vont rester dans leur coin, qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas répondre. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent être extrêmement agités, qui vont avoir un sommeil très perturbé. Donc toutes les facettes du comportement étant touchées, toutes leurs combinaisons font que la présentation peut être très différente d'un patient à l'autre.
Catherine nous dit, mon mari a 84 ans, a des pertes de mémoire, des difficultés de langage, il est en très bonne santé, activité physique, bonne alimentation, mais il refuse de revoir le neurologue pour un nouveau bilan. Peut-être craint-il le diagnostic, faut-il aller dans son sens ou l'inciter à continuer de se faire suivre par le neurologue? Sébastien?
Je crois que c'est apparu en filigrane à travers l'émission, c'est que ce qui va susciter une démarche de la part de la personne, c'est le mal-être dans sa vie quotidienne. Si la personne en souffre, si la personne a l'impression de ne plus pouvoir vivre ses interactions sociales normalement, là, soit elle va le demander, soit quelqu'un dans son entourage peut l'y inciter. Mais si ce sont des petites pertes de mémoire et occasionnelles, ça peut faire partie simplement du déclin cognitif normal. C'est toujours ce qui distingue le normal du pathologique. Quelque part, c'est quand on est handicapé dans sa vie quotidienne par le trouble considéré. Donc là, c'est difficile de répondre tant qu'il n'y a pas plus de détails sur le cas.
En tout cas, Thierry nous dit de son côté, 6 mois pour un rendez-vous chez un neurologue, sont-ils assez nombreux en France pour faire face à l'ampleur de l'épidémie ? Professeur Amouyel.
Je pense qu'aujourd'hui, il existe en France un système qu'il n'y a pas dans les autres pays, qu'on appelle les consultations mémoire. Il y en a 450 en France, qui sont et dans les CHU pour les cas les plus compliqués, et dans les hôpitaux généraux, qui offrent aujourd'hui des temps d'attente qui sont largement inférieurs à ça, qui sont de l'ordre de maximum 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc je pense que le circuit à
voir... Il faut déjà commencer par là ?
Voilà, il faut commencer par là, c'est-à-dire voir son médecin traitant. Je pense que c'est l'élément important. Votre médecin traitant vous référera à une clinique de la mémoire et là, vous avez des spécialistes qui sont à votre disposition pour essayer de comprendre ce que vous avez. Parce qu'il faut y aller tôt pour savoir ce que vous avez. Ça peut être... Il existe des formes curable de ces troubles de mémoire, donc c'est important.
Une question qui jaillissait à travers ce mail, c'était aussi, est-ce qu'il peut y avoir dans certains cas une forme de peur d'affronter cette réalité, une peur de savoir, une forme de déni qui peut être d'origine émotionnelle
et de repousser au plus tard le rendez-vous.
Complètement. On retrouve cette notion de déni à la fois chez le patient, mais aussi chez son entourage, avec le fait, c'est normal, c'est l'âge. Avec l'âge, on est plus lent, on est moins vif, on peut oublier certaines choses, mais elles reviennent quand on les rappelle. Les oublier définitivement, c'est un problème. Donc il faut le prendre en compte. Déni du patient, mais aussi déni de l'entourage qui ne veut pas voir le problème. Donc c'est quelque chose de très compliqué, ça touche à la personnalité des individus. Il faut qu'à un moment, les gens prennent conscience. Et souvent, la prise de conscience vient de la gêne sociale qui est plus supportable.
Chloé nous dit, ma grand-mère est décédée d'Alzheimer. Vous parlez de dépistage précoce. À quel âge doit-on l'effectuer ? Et s'il y a prédisposition génétique, quelle attention doit-on avoir vis-à-vis d'éventuels symptômes ? Professeur Amouyel. Alors,
soit c'est une forme héréditaire et généralement c'est connu dans la famille et il y a un suivi, c'est une maladie rare, moins de 10 000 cas en France, et c'est suivi par la famille. Dans les autres cas, l'intervention d'un médecin, d'un dépistage dans l'état actuel, à l'exception de la recherche, où là on part vraiment dans une logique de recherche, mais il faut signer des consentements, des choses de cette nature-là, le dépistage aujourd'hui, au-delà d'une gêne sociale patente, n'a pas de sens.
Et il y a des questions d'éthique autour de cette question du dépistage, Sébastien Moller, parce qu'évidemment, découvrir de plus en plus tôt des signes qui pourraient annoncer une maladie d'Alzheimer, c'est extrêmement compliqué. Parce que qu'est-ce qu'on dit au patient dans ces cas-là ? Enfin, au patient, à la personne en tout cas.
Il faudrait être sûr ensuite de pouvoir proposer un traitement en disant « ça va vraiment augmenter vos chances ». Et se pose la question du coût du traitement, on en parlait avant l'émission.
Et de la certitude que la maladie va vraiment se développer
quand
même.
Oui, certitude ou risque. Et puis il y a l'autre question qui est la faisabilité concrète. Le professeur Dubois nous disait dans une interview qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un PET scan en dépistage, vous n'avez pas l'autorisation administrative dans le milieu hospitalier de faire un PET scan en dépistage de la maladie d'Alzheimer, c'est réservé à d'autres pathologies. Probablement parce qu'on ne peut pas savoir que dans bien des cas, ce serait un résultat négatif et que ce serait aussi un coût inutile. Donc se pose la question, quel dispositif technique mettre en place ? Là, vraiment, on est au balbutiement, je crois, du questionnement.
Ouais. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut faire la part des choses. On n'a pas de traitement, donc c'est pas dans le domaine général, c'est dans le domaine de la recherche. Et les questions éthiques se posent parce que pour tester un médicament avant, il faut introduire un patient dans un essai clinique qui ne sait pas, a priori, qu'il va avoir une maladie d'Alzheimer, mais dont nous, on est certain qu'il va la faire. Donc le fait de rentrer dans l'essai signe le diagnostic. Oui. La question est, comment est-ce qu'on présente les choses aux patients ?
Professeur Amouyel, pour répondre à Brigitte, je suis sûr qu'il y a d'autres messages en ce sens. Vous dites que la maladie, au cours de l'émission, une fois diagnostiquée, évolue de façon irréversible et que le cerveau masque les symptômes. Donc on ne peut pas devancer le diagnostic sans IRM ou scan. C'est vraiment angoissant, dit Brigitte.
Alors oui, c'est angoissant. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où les symptômes apparaissent, dans la phase prodromale ou présymptomatique, comme on dit habituellement, la phase est suffisamment longue pour que peut-être on puisse mettre en œuvre un certain nombre de choses et changer la direction. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce que l'on connaît, les gens qui sont rentrés avec des symptômes dans une forme sévère ou modérée, l'évolution est constante, elle peut être stabilisée, elle peut être réduite, mais elle est souvent fatale.
Ouais. Et puis dernière question, très très vite, la question des vaccins qui revient régulièrement dans les messages. Quid des relations entre vaccins, aluminium, Alzheimer ? Je sais que vous avez souvent à répondre à cette question.
Alors, l'aluminium, il y a eu quelques études qui ont montré que les gens qui étaient dans des régions où la consommation d'eau contenait un peu plus d'aluminium ou un peu plus de silice, ceux qui avaient un peu plus d'aluminium avaient un risque qui était augmenté de 1% de faire une maladie d'Alzheimer et ceux qui avaient plus de silice qui étaient diminués de 3% de faire une maladie d'Alzheimer. Donc c'est des effets très faibles, beaucoup de mal à reproduire ça, beaucoup de mal à savoir comment c'est. Et aujourd'hui, les vaccinations qui contiennent des adjuvants avec un peu d'aluminium sauvent beaucoup plus de vie qu'elles ne créent probablement de cas de maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ce dossier cerveau et psycho, Alzheimer, les nouvelles raisons des espérer, c'est dans les kiosques en ce moment. Il y a des pistes intéressantes à explorer. Et puis, vous pouvez également soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, qui était notre parrain aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a ce livre blanc avec des conseils de prévention que vous pouvez télécharger sur frm.org. Il y a un quiz pour tester également vos connaissances et le dossier de recherche et santé. Et puis, vous pouvez également aider la Fondation avec un simple SMS. Si vous souhaitez faire un don de 10 euros, par exemple, vous envoyez le mot-clé neuro, N-E-U-R-O, sur le 92 300. Un don de 10 euros sera prélevé directement sur votre prochaine facture et financera la recherche autour de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup à tous les deux. Ainsi se termine cette Tête au carré. Merci à Guillaume Roux et Julien Michel qui étaient à la technique. Demain, ce sera un dossier consacré à l'archéologie des migrations.